Oui, Papa Médard, il est 19 h en Alberta, donc tu peux aller de l'avant, prier pour nous, s'il te plaît.
Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois par sa parole. Seigneur Dieu, ce soir, nous voulons encore compter sur toi. Toi qui es fidèle, grand Dieu. Merci parce que tu veux nous conduire par ta parole. Seigneur Dieu, dans ta fidélité, tu as été avec nous durant toute la journée. Tu nous as donné le souffle de vie gratuitement, Seigneur Dieu. C'est une grâce que nous avons eue de ta part. Merci, grand Dieu, pour cela. Et merci, Seigneur Dieu, parce que tu as été avec nous partout où nous avons été. Et Seigneur Dieu, maintenant, dans ta fidélité toujours, tu nous conduis vers ta parole. Oui, grand Dieu, merci pour cette réunion que toi tu as permise. Seigneur Dieu, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons nous confier à toi. Mais grand Dieu, tu as vu comment nous avons marché. Seigneur Dieu, c'est difficile que nous puissions dire que nous n'avons pas de péché. Mais grand Dieu, par ta grâce, tu as voulu que nous puissions venir. Et nous venons près de toi humblement, Seigneur, te dire que pardonne-moi. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Pardonne-nous tous qui sommes en ligne maintenant. Et ceux-là même qui vont nous rejoindre, Seigneur Dieu, là où ils sont, Seigneur Dieu, merci de les aider, de nous rejoindre. Nous te bénissons pour le pardon que tu nous accordes. Grand Dieu, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien comprendre. Oui, Seigneur Dieu, nous savons que tu vas utiliser ton enfant, le pasteur scellé, Seigneur Dieu, pour nous conduire. Mais grand Dieu, sans ton Saint-Esprit, ça sera difficile. C'est pour cela, Seigneur Dieu, nous implorons que tu puisses remplir chacun de nous de ton Saint-Esprit. Merci, grand Dieu, pour tout ce qui va se faire. Seigneur Dieu, nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que, Seigneur Dieu, du début jusqu'à la fin, tu sois le maître. Merci pour ta parole. Merci pour tes préceptes. Merci pour tes conseils. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur Dieu. Et grand Dieu, tu nous connais tels que nous sommes. Mais nous venons auprès de toi écouter ta parole. Merci, grand Dieu, parce que tu vas bénir ce moment. Et toutes les interventions, Seigneur Dieu, nous voulons que toi, tu puisses les canaliser par ton serviteur, le pasteur scellé. Merci, grand Dieu. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour la parole que nous allons écouter. Nous t'avons ainsi prié, grand Dieu, avec confiance, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Amen. Merci beaucoup pour la prière, Frère Méda.
Je vous en prie.
Bien-aimé, bienvenue sur ce plateau de FIMES pour cette journée de 3 mars pour la méditation des Écritures saintes. Les textes que nous allons méditer ensemble se trouvent en Marc au chapitre 5, du verset 21 jusqu'au verset 34e. Là, je vais demander à notre sœur Ruth de nous lire les textes, s'il vous plaît.
Marc chapitre 5, verset 21 à verset 34. Je lis dans la version Louis II et le titre que j'ai ici, c'est Plus fort que la maladie et la mort. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plus tôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même moment, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen.
Amen. Va en paix et sois guérie de ton mal. Donc là, le Seigneur achève et complète même ce qui a commencé dans la vie de cette femme. Si vous êtes connecté en retard, que ce soit à la radio ou en direct sur le plateau de Fimes, nous venions d'écouter la lecture en Marc au chapitre 5, du verset 21 jusqu'au verset 34e. Une histoire bien connue de ces deux personnes. D'abord, les chefs de la synagogue, ces juifs nommés Jaïrus, viennent se jeter aux pieds du Seigneur. Donc, c'est une autorité du temple qui a compris. Et dans cet homme, il y a quelque chose de différent. Ce chef vient se jeter aux pieds du Seigneur en intercédant pour son enfant. Et le deuxième personnage, c'est une femme désespérée qui est restée longtemps malade, 12 ans, nous dit les Écritures. Et nous voyons d'abord la détermination de cette femme et les résultats que cela produit auprès du Seigneur. Voilà en quelques mots, frères et sœurs, de quoi nous allons parler dans ce texte. Les commentateurs de ce texte nous ont proposé deux questions. D'abord la question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Ensuite, la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? Quelle richesse, frères et sœurs, nous avons dans le chef de ces deux personnages, tous les deux, à leur manière, une personne qui cherche le Seigneur pour sa famille, pour sa fillette, et l'autre qui cherche le Seigneur pour soi-même. Voilà, frères et sœurs. Mais avant cela, sachons que le Seigneur, là où il était parti de l'autre côté de la rive, après avoir rencontré de l'autre côté un démoniaque, c'est-à-dire une personne possédée, le travail divin s'est accompli pour le rétablissement de cette personne. Maintenant, on lui dit de quitter le territoire là où il était pour rentrer de l'autre côté de la rive. Dès qu'il arrive de l'autre côté de la rive, le travail est toujours là. Il va rencontrer, de l'autre côté, il avait rencontré un possédé, quelqu'un qui vivait dans les tombes, dans les cimetières, mais il vient ici, quelqu'un qui sort du temple, qui vient s'agenouiller. Donc, même dans les tombes, le Seigneur est présent, même quand on sort de synagogue, le Seigneur est présent, voici de quoi nous allons parler. Voilà, frères et sœurs, nous pouvons maintenant demander la parole. J'ai, pour la facilité de notre méditation, j'ai subdivisé ce texte en deux parties. D'abord, verset 21 au verset 24e. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, nous prendrons, la première partie, c'est juste, nous allons parler du chef de synagogue, Jairus. Et la deuxième partie, nous allons parler de la femme qui va être guérie d'une façon miraculeuse. Voilà, frères et sœurs, avec cette brève introduction, nous pouvons maintenant aller de l'avant, nous pouvons demander la parole et nous édifier mutuellement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tout abandonné et nous sommes venus au Seigneur ce soir. Voilà, frères et sœurs, je regarde mon tableau, je ne vois pas une nouvelle personne qui nous visite. Tous nous sommes les habitués de la maison et nous connaissons comment prendre la parole. Et nous pouvons maintenant aller de l'avant. Merci. Papa José, tu as la parole. Tu es le seul José ce soir. Donc, je me demande à quel José.
Merci. Merci,
okay.
Pasteur. Pasteur, merci pour la parole que le modérateur m'a donnée. Et merci aussi pour votre attention. Au verset 1-2. Verset 22, on nous dit qu'un chef de la synagogue locale, Jairus, arriva. Puis Jésus jeta à ses pieds, l'idée continue au verset 23. Oui, en cet homme, je vois l'humilité. L'humilité parce que c'est un chef de la synagogue. Il aurait pu aller en tant que chef parler à Jésus sans tomber, sans se jeter à ses pieds. Ou tout simplement envoyer un membre de la famille pour dire que la fille du chef de la synagogue est malade gravement. Viens. Non, c'est lui-même qui vient et c'est lui-même qui se jette à ses pieds pour sa fille. Nous avons là l'humilité de cet homme qui s'oublie devant le Seigneur. Il s'oublie pourquoi? Pour le salut de son enfant. Il est un homme humble. Il est un bon père. Il aurait pu envoyer peut-être sa femme. Mais non, lui-même. Ici, j'apprends l'humilité sur le plan spirituel, sur le plan social. Et j'apprends aussi l'amour de ce père pour sa famille, pour sa fille. Un père qui aime s'oublie et s'humilie. Merci.
Merci, Papa Joseph. C'est vraiment de l'amour pour un parent qui sait réellement voir le besoin de son enfant et qui vient auprès de celui qui peut réellement donner la vie. Quel bel exemple pour les parents que je vois nombreux ce soir même ceux qui vont nous écouter ou ceux qui sont en train de nous écouter à la radio, nous bénissons le Seigneur de ce que les parents entendent, que nous devons amener nos enfants dans l'intercession auprès du Seigneur. Et là, nous avons un exemple à suivre de cet homme qui voit réellement, qui décèle réellement que sa fille est malade, qui cherche qui est l'auteur de la vie, qui est celui qui peut donner la vie, qui est celui qui peut trouver une solution. Et il vient se jeter à ses pieds. Quelle humilité de nous mettre aux pieds du Seigneur, frères et sœurs. Merci beaucoup. Papa Gaston, tu as la parole.
Merci, pasteur, pour la parole. Je suis au verset 21-22, mais je vais faire un peu référence par un pas en arrière au verset 6 du même chapitre. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui. Ça, c'est les démoniaques, les légions qui ont conduit l'homme. Les démoniaques se prosternant devant Jésus-Christ, non pour avoir la délivrance, ils voulaient amadouer pour Jésus-Christ afin qu'il puisse demeurer dans la ville et pour qu'il puisse continuer à faire du mal. Mais ici, le chef de synagogue, il vient se jeter aux pieds de Jésus-Christ parce que c'est un intercesseur qui intercède, qui s'élève pour intercéder en faveur de sa famille. Et il reconnaît en Jésus-Christ la source de toute bénédiction. Il vient pour la bénédiction de sa fille. Au verset 21, je vois tout d'abord cet amour du Christ. Il s'est déplacé, il était parti de l'autre côté du lac pour une âme. Quelle valeur a une âme? Pour cette âme-là, il s'est déplacé. Et les disciples ont affronté la tempête. C'était pour cette âme-là. Et nous avons vu la suite. L'âme est restée dans la décapole, annoncée la parole du Seigneur et Christ rentre. Christ accorde l'importance même à une seule personne qui a besoin du Seigneur. Je dois apporter la parole. Il est rentré, le travail l'attend. Et c'est papa qui vient faire le travail d'intercesseur, de rester au pied du Seigneur, apporter les besoins de toute une nation, de toute la famille devant le Seigneur, en toute sincérité, parce qu'il sait que le Seigneur est la clé de toute solution. Amen.
Amen. Le Seigneur est vraiment la clé de toute solution. Une seule âme de l'autre côté du lac. Le Seigneur s'est déplacé pour cela et nous voyons des grands résultats qui s'accomplissent. Il revient maintenant de l'autre rive. C'est le chef qui vient s'agenouiller. Et toutes les personnes ont vraiment de la valeur aux yeux du Seigneur, que ce soit les démoniaques, que ce soit les chefs qui est au temple, toutes les personnes ont de la valeur aux yeux du Seigneur. Quel exemple il nous donne? Nous devons donner de la valeur à quiconque, quel que soit son état, son statut ou son état spirituel. Le Seigneur lui donne de la valeur. Merci beaucoup, Papa Salomon. Tu as la parole, s'il te plaît.
Merci, Pasteur Célestin. Dans le verset 23, cet homme, chef de synagogue, est un homme de foi. Il démontre sa foi. D'abord, il a supplié le Seigneur. Et puis, l'enfant était presque mourant. Et voyez la prière qui lui dit, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc, sans l'ombre de doute, sans peur, l'état qu'il a laissé son enfant et il a été devant le Seigneur, quand il s'est jeté, il n'a pas dit peut-être qu'il peut être. Non, il n'a pas douté, il a dit qu'il vive. Et la foi, c'est une ferme assurance.
Ouais.
La foi, c'est ça notre point d'appui
Et la foi, quand vous demandez, croyez-le que vous l'aviez déjà reçu. Là, Jésus n'est même pas arrivé dans sa maison, mais il croit de tout son cœur qu'il vive. Impose-lui la main. Que devant Dieu, il n'y a rien d'être impossible. Il croyait de tout son cœur. Il voyait que si Jésus pose seulement sa main sur lui, même malgré l'état, malgré ce qu'il est, vous le verrez dans la suite, comment est-ce que Jésus est entré et comment il a fait exactement. Il a dit à l'enfant et l'enfant est revenu. Donc la foi, c'est la foi de cet homme. Il avait une foi ferme, une foi sans doute. Merci.
Merci beaucoup. Une foi ferme, une foi sans doute, voilà ce qui nous est aussi recommandé, nous, dans toutes les situations, quand nous venons auprès du Seigneur. Rappelons-nous, comme l'auteur aux Hébreux nous dit, nous répète, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et là, nous avons un exemple, le chef de la synagogue, qui nous montre combien il a tellement confiance que vient lui imposer seulement les mains. Elle sera guérie, elle va retrouver la vie. Merci. Le verset 24 nous montre réellement quand le Seigneur se déplace. Jésus est en train de partir avec Jairus. Mais une grande foule le suivait et le pressait. Et nous allons voir dans la deuxième partie que beaucoup suivent Jésus tout simplement comme des spectateurs. Pas des acteurs, mais des spectateurs. Amen. Tout simplement pour voir qu'est-ce qui va encore se faire, qu'est-ce qui va encore se passer.
Des spectateurs.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup de spectateurs dans l'Église du Seigneur. Le Seigneur voudrait que nous puissions changer vraiment de statut, que nous quittions le statut de spectateur pour réellement devenir des acteurs sur le champ du Seigneur avec lui. Regardons, frères et sœurs, notre deuxième partie. Si vous avez quelque chose à dire dans la première partie, vous pouvez toujours revenir. Regardons du verset 25 jusqu'au verset 34, notre deuxième partie. Un incident de parcours arrive. J'appelle ça un incident de parcours parce que le Seigneur est en train de se diriger ailleurs, vers une personne qui l'a intercédé, une personne qui veut réellement voir la guérison dans sa maison. Mais l'incident de parcours, c'est une femme. Et le verset 25 nous dit, « Il y avait toujours dans la même foule, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, nous comptons la première année, la deuxième année, la troisième année. 12 ans. Quel désespoir. Je ne sais pas le problème que j'ai, la situation que j'ai, la situation que vous avez, combien de temps ça dure. Et nous voyons cette femme va intercepter le Seigneur à la 12e année de douleurs, de tortures, de pleurs, de recherches. Et nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur va faire. Papa José, tu as encore la parole.
Oui. Merci beaucoup, frère. Au mois de juin, je vais totaliser 12 ans avec cette paralysie, et je crois que le Seigneur fera quelque chose pour moi aussi.
Amen.
Amen.
Oui, oui, merci. Je suis au verset 26. Au verset 26, on nous décrit ce que cette femme a fait. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Ce verset nous montre la souffrance morale et physique de cette femme. Cette femme, vraiment, elle a peiné. Elle a vu n'importe quel médecin. Elle a dépensé tout son argent. Mais ce qui est dommage est que rien n'avait rapporté. Elle allait plutôt de mal en pis. C'est une situation de désespoir. Ce soir, le Seigneur m'apprend que on ne doit pas désespérer. En matière de la foi, en tant que chrétien et chrétienne, on ne doit pas désespérer. Cette femme aurait pu rester à la maison. Aurait pu dire, ah, j'ai vu tel. Bon, c'est Jésus-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais la foi de cette femme lui a donné la force, lui a donné le courage d'aller. La maladie qui était la tienne n'était pas une maladie joyeuse, c'est une maladie honteuse dans le milieu juif. Elle ne pouvait pas être dans les assemblées, non. Mais, nous verrons, en un mot, que je ne désespère pas. Quel que soit le temps, je peux toujours espérer. Merci.
Merci, Papa José, que je ne désespère pas. Nous entrons beaucoup, frères et sœurs, en tant qu'humains, dans le désespoir quand la situation dure, quand la situation persiste. Nous entrons beaucoup de fois dans le désespoir. Et nous avons ici un exemple de ce que le désespoir ne paye pas. Au contraire, continuez constamment à regarder vers le Seigneur. Voici ce qui paye. Et le verset 27 nous montre que cette femme a entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit, cette fois-ci ou jamais. Mais il y a un obstacle devant elle, c'est la foule. Quand on perd le sang, on doit être très maigre. On avait perdu vraiment beaucoup, beaucoup la santé. Elle devait être vraiment faible. Il y a la foule. Il y a qu'est-ce qu'on va dire de moi à cause de l'état dans lequel je me trouve. Tout cela, elle va braver parce qu'elle est déterminée à toucher. Et cette détermination doit être, le texte ne le dit pas, en quittant chez elle. Parce qu'elle n'a pas entendu parler de Jésus quand il était déjà à côté de la foule. C'est chez elle. Elle avait déjà un plan. Et elle est arrivée pour réellement toucher cet homme. Après avoir cherché au monde, après avoir cherché parmi l'intelligence des hommes, le médecin le plus spécialiste possible, le dernier recours auprès du Seigneur. Quelle est notre situation, frères et sœurs? Quelle est ma situation? Qu'est-ce qui me crée des tourments? Où est-ce que je cherche des solutions? C'est vrai, l'intelligence est bonne, c'est un don de Dieu. Mais le dernier rempart, ce n'est pas l'intelligence des hommes. Le dernier rempart, c'est auprès du Seigneur. Voilà, nous continuons, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a encore parmi nous une personne qui bouillonne une parole au fond de son cœur et qui aimerait intervenir? N'hésitons pas, n'hésitez pas. Allons-y oui. De l'avant, édifions-nous. Ok, je vais revenir à toi tout à l'heure. J'ai entendu ta voix, Papa José. C'est Papa Salomon qui a demandé la parole avant toi. Papa Salomon, tu as la parole.
Merci, Papa. Nous voyons la femme ici, quelque chose qui m'a un modèle, un exemple à suivre, c'est le contact. Le contact est très important. Le contact des malades avec Jésus. Et nous voyons aussi que Jésus est le salut complet. Même ses vêtements avaient le salut. Dans ses vêtements, un vêtement peut arrêter la maladie de 12 ans. Un vêtement. Donc, lui, c'était tout un salut complet. Il n'y a rien à ajouter. Même ses vêtements guérissaient les gens. Les salives, c'est de guérir les gens. Ça dépend de ta foi, de la manière où tu le prends. Et la foi de cette femme de dire, moi, je n'ai pas besoin de la parole. Moi, j'ai besoin seulement de contact. Je tiens seulement de son habit. Quelle foi qu'elle avait. Bon, les autres attendaient, Jésus, fils de David, aie pitié, impose-moi la main. L'autre demandait qu'il impose. Mais lui, elle dit, avec l'état que je suis, je dois que faire l'impossible. Si Dieu ne me touche pas, je cherche tout à le toucher. Et c'est le malade qui a touché de Dieu, qui a touché le salut. Parce que ça brillonnait dans son cœur. Et le contact est très, très important pour cette femme. Quand elle a touché, et voilà, elle est guérie. Donc, nous n'avons rien à faire qu'à croire de tout cœur que le nom de Jésus, ce n'est pas seulement un nom, mais dans ce nom, il y a le salut. Quand nous l'invoquons, toujours, même à quelle minute de Jésus, le ciel bouge, la terre bouge, et le monde des ténèbres aussi bouge. Parce que c'est un nom où Dieu a mis toute sa vérité dans ce nom-là. C'est pourquoi nous devons avoir confiance. Merci.
Merci beaucoup, Pasteur. Nous devons vraiment avoir confiance dans ces noms. Seul le contact avec le Seigneur a changé tout pour récupérer tout ce qui a été perdu dans les médecins, dans toutes sortes de recherches, et que tout l'argent a été dépensé. Ici, on nous dit qu'il va avoir réellement le salut, il va y avoir la guérison. Sans rien donner. Voilà pourquoi les Écritures nous disent, venez à la source, venez boire, sans rien payer, à la source de la grâce.
Amen.
Le monde demande qu'on paye de l'argent, qu'on paye beaucoup. Et quand nous venons auprès du Seigneur, le Seigneur ne nous demande pas de payer, c'est gratuit. C'est le vrai salut, c'est la vraie guérison qu'elle va obtenir.
Amen.
Amen. Bon, Papa José, tu as la parole, après ça sera Papa Gaston.
Merci beaucoup, Pasteur. Frères et sœurs, je suis aussi au verset 20, la dernière partie, et le verset 29. Le frère Salomon, pasteur, a souligné le contact avec Jésus. La dernière partie du verset 28 nous dit « Je serai guéri ». C'était une femme de foi, encore une fois, bien-aimée, parce que pour elle, toucher aux vêtements du Seigneur, c'est la guérison. Quand je touche, je serai guéri. Donc, elle n'a pas dit peut-être je serai guéri si je touche ses vêtements. Non, il n'y a pas de peut-être dans le cœur de cette femme. Je serai guéri. Et au verset qui suit, sa perte de sang s'arrêta aussitôt. Et elle s'est sentie guérie de son mal. C'est vrai parce qu'elle-même a senti la guérison. Elle a senti la guérison. Cette foi, la foi de cette femme, lui a déjà donné la guérison. Et le Seigneur le dira. Donc, souvent, nous avons cette foi-là de peut-être une foi de si, ainsi, ou peut-être non. Mais une foi qui tranche, une foi qui dit la vérité. J'aurai ça quand je ferai ça. Mais pas peut-être. J'apprends de cette femme une foi franchise, une foi franche, une foi qui tranche. Ce n'est pas une foi qui doute un peu, non. Je serai guéri quand je vais toucher. Et elle a senti dans son corps que la maladie est partie. Que Dieu me donne, que Dieu nous donne une telle foi pour faire face à toutes sortes de difficultés qui sont les nôtres. Merci.
Merci beaucoup. Que Dieu nous donne une telle foi, frères et sœurs. Quelle détermination, quel courage, quelle foi. Elle s'est dit elle-même, je veux aller toucher et je serai guérie. Quelle détermination. Et elle va quitter chez elle, elle va venir uniquement pour ça. Merci, merci beaucoup. Papa Gaston, tu peux encore attendre un petit instant. J'ai une personne qui n'a pas encore parlé avant toi. Papa Thomas, tu as la parole.
Oui, moi, j'ai un petit témoignage par rapport à cette affaire de la femme qui avait des pertes de sang. En 2011, j'étais allé au Sud Soudan et dans une affaire de ma société, on a perdu l'argent, mais le Seigneur m'a dit « prêche ». Et je prêchais, Dieu m'utilisait beaucoup. Mais après avoir prêché les deux derniers dimanches, l'avant-dernier dimanche, un couple est venu me voir et le mari a dit que sa femme perdait le sang depuis une période de temps et ça n'arrivait pas à s'arrêter et il voulait que moi je prie pour ça. Alors je leur ai dit, mais il faut continuer, il faut aller chez le docteur. Pourquoi vous voulez que moi pourquoi vous pensez que si je prie, ça va changer? Ils disent, non, nous pensons que si tu pries, Dieu peut faire quelque chose. Alors, je dis, comme vous avez la foi, bon, on va prier. Je me suis souvenu de cette histoire ici, et j'ai dit à la femme de me toucher, et on a prié. Et je lui ai donné l'eau que j'avais avec moi. J'ai dit, pars avec mon eau, continue à la boire. Mais à 17 heures, quand vous arrivez à la maison, regardez, ça va s'arrêter. Ils sont partis et puis j'ai oublié. Le dimanche qui suivait, c'était le dernier jour de la campagne. Ce monsieur-là est parti en sautant devant et il devait donner les témoignages. Moi, je me disais, c'est quoi ça? Alors, quand il parle, il dit que ce monsieur-ci que vous voyez qui prêche, vraiment, c'est un homme de Dieu parce que il a prié pour moi. Ma femme avait cette situation depuis une longue période de temps. Et maintenant, quand on a prié, on est rentré à la maison. À 17 heures, effectivement, ça s'est arrêté. Donc, quand je vois cette histoire aujourd'hui, je me rappelle que le Seigneur avait fait ça ce jour-là, mais moi, 2000 ans après, seulement en invoquant son nom, il continue à faire ces miracles-là aujourd'hui. C'est quand même, je suis vraiment impressionné par la grandeur de notre Seigneur de continuer ce genre de miracles. Merci.
Merci. Merci, Papa Thomas, pour ce témoignage. Nous servons le Dieu Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est encore capable de guérir comme il avait fait pour cette femme sur ses serviteurs. Il est encore capable de les utiliser de cette manière-là. Voilà, nous sommes en train de cheminer. Nous avons encore une dizaine de minutes, frères et sœurs. Papa Gaston, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci, pasteur. Je suis au verset 30b et puis 31. Qui a touché mes vêtements? C'est le Seigneur qui pose cette question. Et je suis interpellé par la réponse des disciples. Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Sont prêts à donner une leçon au Seigneur. C'est comme si le Seigneur avait perdu la raison. Que je fasse attention dans mes réactions, que je demeure à l'écoute du Saint-Esprit et être prêt à recevoir de la part du Saint-Esprit la révélation de Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montrées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit. Que je ne puisse pas, en tant que chrétien, parfois il m'arrive d'oublier ou de négliger de voir les choses telles que Dieu les voit. Mais je cherche à travailler ou à répondre selon mon entendement. Or, pourtant, le Seigneur veut que je puisse le servir avec un esprit différent. Même si le monde dit c'est ça, mais moi je sois à l'écoute du Seigneur, je dirai que ce que le Seigneur a déposé à moi à dire. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Gaston. Nous devons dire qu'est-ce que le Seigneur a déposé en nous. Nous ne nous précipitons pas d'accuser ou de dire ce qui nous vient de nous-mêmes. Disons ce qui vient du Seigneur. Cette question du Seigneur est vraiment capitale, frères et sœurs. Qui a touché mes vêtements? Et quand nous regardons au verset 24, nous avons vu qu'il y avait une grande foule le suivait et le pressait. Mm-hmm. Le Seigneur, au lieu de poser la question, qui ont touché mes vêtements, il dit, qui a touché mes vêtements? Ça signifie, c'est une seule personne qui l'a touché. Pourtant, il y avait beaucoup de personnes qui l'ont touché, qui l'ont pressé, mais Jésus ne les a pas sentis. Jésus a senti seulement une seule personne qui l'a touché. Frères et sœurs, nous pouvons être nombreux. Nous cherchons le Seigneur, mais le Seigneur ne nous sent pas. Le Seigneur sent seulement la personne qui a la foi, qui a la détermination, qui ne regarde pas vers les hommes, qui ne regarde pas vers les échecs de ce monde, mais qui regarde que vers le Seigneur. Qui a touché? Pourtant, plusieurs l'avaient touché. Mais il ne les sentait pas. Il a senti seulement une personne qui avait la foi, qui avait la détermination quand elle est dans la présence du Seigneur. Quelle grande leçon nous pouvons apprendre de cette femme, ou même de tous les spectateurs qui sont là, dont le Seigneur ne sent pas. Merci beaucoup, Papa Gaston. Papa Thomas, tu as la parole.
Et moi, par la suite de ce que le bien-aimé vient de dire, le Seigneur voulait que la femme donne témoignage. Hier, nous avons vu le fou qui voulait suivre Jésus après avoir été délivré et guéri. Le Seigneur lui dit, va, raconte ce que Dieu a fait. Et cette femme, moi je pense, c'est comme moi aujourd'hui. Je suis guéri, béni, mais je préfère me taire parce que je ne veux pas que les gens entendent. Et nous voyons ça plusieurs fois. Quand Dieu fait des choses, on ne veut pas qu'on en parle. On ne veut pas, on veut laisser la situation camouflée, comme si de rien n'avait été. J'entends le Seigneur me dire, ce n'est pas bien. Qui m'a touché? Qui j'ai touché? Donc le Seigneur a guéri, il savait ça, et cette femme devait donner témoignage pour donner gloire à Dieu. Elle préfère se taire, aller chez elle et montrer qu'elle est guérie, et personne ne sait de quoi il s'agit. Mais quand elle donne les témoignages, le Seigneur va dire, va, ma fille, ta foi t'a sauvée. Que ta guérison soit complète. Donc, je pense que Dieu est en train de me dire de faire attention dorénavant, de pouvoir raconter ce que Dieu a fait et ne pas cacher, parce que sinon les gens vont savoir que j'avais telle maladie, j'avais telle situation. Non. Je ne dois pas me gêner. Je dois dire ce que Dieu a fait pour ta gloire, parce que Dieu fait ces choses-là pour sa gloire et pas pour que nous, nous soyons gênés ou ne pas être gênés. Merci.
Merci, Papa Thomas. C'est capital, le témoignage. Le Seigneur veut le témoignage. Pourtant, il savait ce qui s'était passé. Il était Dieu. Mais il voulait un témoignage public. Des fois, nous devons témoigner ce que Dieu fait dans nos vies. Et cela déclenche quelque chose en plus. Le Seigneur va dire à cette femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Sois en paix et sois guérie de ton mal. » Deux guérisons. La guérison physique et la guérison de l'âme. Elle est sauvée sur le plan de son âme. Elle est guérie sur le plan de son corps, tout simplement parce qu'elle a témoigné ce que Dieu a fait dans sa vie. Merci beaucoup, Papa. José, tu as encore la parole, s'il te plaît.
Très rapidement, je réponds la question du Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur, pour la parole. Ce n'est pas entre... nous montre la divinité de Jésus, notre Seigneur, qu'il est Dieu. On peut faire en cachette, mais il sait. Tandis que tous ceux qui étaient là, plus précisément les disciples, étaient humains totalement. Eux ignoraient ce qui s'est passé. Ce qui s'était passé dans le corps, non seulement de la femme, mais dans le corps du Seigneur. Une force l'a quitté. Et il ne savait pas. Alors, notre Seigneur a montré ici sa divinité qu'il connaît tout. Et la femme est venue toute tremblante pour montrer que Jésus est Dieu. Elle se jette. Elle se prosterne. Elle aussi suit le chef, le chef des synagogues qui s'est jeté. Elle suit aussi l'homme qui était possédé, l'homme qui a été délivré hier. Il s'est posséné aussi. Donc, Dieu en Jésus mérite notre adoration. Et la femme voulait se soustraire, se dérober de cette tâche importante spirituellement, mais le Seigneur l'a ramenée. Que vous devez, vous aussi, te posséder devant Dieu. Elle a fait. Donc, le Seigneur mérite notre adoration comme on fait les trois personnes que nous avons vues dans le texte aujourd'hui et hier. Merci.
Merci, Papa José. C'est profond et c'est même là que nous allons arrêter avec les interventions aujourd'hui, frères et sœurs. Notre Seigneur mérite notre adoration. Ce qu'il a fait hier, il cherche encore des hommes et des femmes de foi pour accomplir cela aujourd'hui. Ce n'est pas des situations qui durent, qui manquent parmi nous ou parmi le peuple de Dieu. Mais Dieu est en train de chercher une personne qui peut intercéder pour sa famille, comme Jairus, une personne qui peut réellement dire, j'ai entendu parler du Seigneur dans la parole. J'ai entendu parler du Seigneur dans l'Église. J'ai entendu parler du Seigneur au sein des FIMES dans la méditation. Maintenant, je veux réellement chercher à le toucher pour qu'il me sente. Quittons, frères et sœurs, les foules. Quittons les spectacles, les spectateurs qui viennent pour réellement être vus. Beaucoup de raisons amènent les gens à l'Église. Beaucoup de raisons amènent les gens au FIMES. Est-ce que nous avons réellement le cœur qui veut toucher le Seigneur, qui veut réellement être touché pour que le Seigneur nous sente? Le Seigneur ne sent pas tout le monde. Le Seigneur sent seulement ceux qui viennent avec une foi ferme que Dieu travaille encore aujourd'hui. Jairus, c'est pour nous un exemple. Nous devons amener pas seulement les enfants, les membres des familles qui ont les problèmes de toutes sortes. Nous devons devenir des Jairus aujourd'hui. Nous-mêmes, parmi les situations qui durent moins ou plus de 12 ans, nous devons recourir au Seigneur, venir pour que le Seigneur nous sente que nous sommes là. Nous devons apprendre à témoigner. Seigneur, guéris l'âme, guéris le corps. Nous devons apprendre à témoigner. Quel amour le Seigneur nous montre. Il peut traverser les lacs pour un possédé. Il peut revenir de l'autre côté pour les gens de toutes sortes, les gens bien comme Jairus, mais qui est humble, qui se reconnaît petit devant cet homme, mais aussi pour les gens désespérés. Toute catégorie, le Seigneur a besoin de nous, a besoin de notre cœur. Nous arrêter là, c'est vraiment profond ce que le Seigneur, comment le Seigneur nous interpelle et nous appelle à le servir. Nous saluons les frères et sœurs qui sont à la radio. C'est pour la première fois que je vois les frères et sœurs d'Arizona, du côté de Bentonville. Soyez bénis là où vous êtes. Ceux qui sont en North Carolina ou à Missouri, ce sont les habitués, soyez bénis. Edmonton, en Alberta, Calgary, soyez bénis. Et tous ceux qui vont même suivre ce message en différé partout, soyez bénis. Sur le plateau, j'aimerais rapidement, frères et sœurs, nous dire, je vais avec ceux qui ne sont pas en mute, une brève présentation. Où est-ce que nous sommes? Nous commençons avec notre sœur Ruth. Où est-ce que tu y es?
Ottawa, Ontario, Canada.
Ok, merci. Sœur Kaba?
Maryland, États-Unis.
Merci. Femeda? Femeda?
Oui, pasteur.
Oui, tu es où?
Je suis à la maison.
La maison au Canada ou aux États-Unis?
On a une maison.
Viens râler?
Oui, oui.
Ok, merci. Ok, ce mari, tu t'en as?
Canada.
Montréal, Canada, merci. Frère Adolphe? Adolphe est à râler aussi. Qu'est-ce que se passe aujourd'hui avec les gens de râler? Sœur Charlie?
Moi, je suis à Edmonton, au Canada, en Alberta.
Ok, merci. Sœur Brigitte?
Montréal, Québec, Canada.
Ok, merci. Sœur Agnès Mbouy?
Ottawa, Gatineau, je dirais, au Québec.
Ok, merci. Pasteur José?
Je suis à Relais, États-Unis.
Ok, merci. Sœur Abéné?
Gatineau, Québec, Canada.
Ok, merci. Frère Jean-Baptiste?
Edmonton, Canada.
Ok, merci. Pasteur Salomon? Pas seulement. Ok. Pas seulement est à Raleigh, aux États-Unis. Papa Gaston.
Elmer, Québec, Ottawa.
Ok, merci. Et Papa Thomas.
Nidel, North Carolina, États-Unis.
Ok, merci. Annabelle.
Minneapolis, États-Unis.
Ok, merci. Donc, quand je regarde mon tableau, j'espère que je n'ai pas oublié une personne.
Tu m'as oublié.
Ah, qui ça?
Adolphe.
Ok. Les gens de Raleigh. Adolphe, où est-ce que tu es, Adolphe?
Je suis à Raleigh. Dans la capitale.
Ok, à Raleigh aux États-Unis, ok. Donc, si tu vas réécouter le message, tu verras qu'on t'avait cherché. Merci. Ok. Bon, frères et sœurs, en tout cas, merci beaucoup. Nous avons été fortement bénis ce soir. Le Seigneur continue à nous parler. Nous sommes à son école. Qu'il soit béni pour toutes les richesses que nous avons, même en nous présentant. Le Seigneur continue à nous bénir les uns les autres. Papa Thomas, daigne prier pour nous recommander la grâce du Seigneur.
Tendre Père, merci pour ta parole qui continue à nous donner les moyens de vivre la vie. La parole dit que, Seigneur, on ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci Seigneur de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est clair dans notre esprit que quand nous avons des problèmes avec nos enfants, nos membres de famille, nos amis, nos frères et nous-mêmes, il n'y a qu'une seule source, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre source, c'est le Christ. Et Seigneur, le chef de la synagogue, un chef religieux, il est venu s'humilier. Il est venu t'adorer et demander ton aide. Père, nous venons aussi à toi t'adorer, te célébrer et dire que en dehors de toi, il n'y a pas de moyen d'en sortir. Nous comptons sur toi. Bénis-nous, Seigneur. Pendant que nous t'adorons, nous demandons aussi, Seigneur, que nous puissions te toucher pour nos problèmes. Cette femme a cru. Et puis, elle est venue te toucher. Une force est sortie de toi, mais ça l'a touchée et elle était guérie. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous te touchons pour que le cancer parte. Nous te touchons pour que le diabète parte. Nous te touchons pour que des problèmes partent. Nous te touchons, Seigneur, pour que la paralysie parte. Nous te touchons pour que la mort spirituelle parte. Nous venons à toi. Nous cherchons la guérison, la délivrance, les solutions auprès de toi. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous croyons et nous voulons être guéris physiquement, spirituellement, moralement et socialement. Nous comptons sur toi. Bénis ton serviteur, le pasteur Célestin. Continue à lui donner, Seigneur, de l'intelligence, de la sagesse, des partenaires pour soutenir cette œuvre de fumée. Bénis les gens du bureau, bénis les membres qui nous suivent, mais ceux qui sont du plateau, ceux qui sont de la radio, ceux qui sont, Seigneur Dieu, de l'Internet et demain Amène-nous à la télévision. Répands ta parole. Sauve les âmes. Bénis-nous. Merci pour ta parole. Renforce notre foi en toi. Nous allons te suivre jusqu'au bout. Nous serons là avec toi. Bénis-nous. Reste avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Thomas, pour la prière. Frères et sœurs, demain, nous allons méditer toujours dans le livre de Marc, au chapitre 5. Nous prendrons le verset 35 jusqu'au verset 43. Nous aurons toujours les mêmes questions, 2 et 3. Voilà là où le Seigneur nous appelle demain. Grâce et paix dans nos maisons. Amen.
Amen.
Amen. Amen.